un journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Écoute et dialogue. Et Édouard Philippe applique la nouvelle méthode du gouvernement à la réforme des retraites. Il promet de prendre le temps nécessaire et de multiplier les discussions. Analyse d'Anne-Laure Jumet dans un instant. 5 grandes villes bannissent les pesticides de leur territoire. Est-ce un simple coup de com', comme le dit la ministre de la Transition énergétique? Nous ferons le point avec Rosalie Lafarge. La BCE sort le grand jeu pour soutenir une conjoncture faiblissante en zone euro. La Banque Centrale Européenne adopte une panoplie de mesures à faire pâlir de jalousie Donald Trump. Et puis, muté après avoir pris un congé paternité, un Japonais accuse son entreprise de harcèlement moral, un cas rarement porté devant les tribunaux et qui fait débat au Japon. Nous irons à Tokyo. La future réforme des retraites a déjà donné lieu à beaucoup de crispations. Alors le Premier ministre essaye de ramener un peu de sérénité dans le débat. Devant le Conseil économique, social et environnemental, Édouard Philippe a tenu à souligner le changement de méthode de l'exécutif, à savoir plus d'écoute, plus de dialogue avec les corps intermédiaires. Le temps nécessaire sera pris, assure le chef du gouvernement. Il y aura des consultations citoyennes et des concertations avec les partenaires sociaux. Et il insiste, Anne-Laure Jumet, la réforme n'est pas écrite.
Oui. Alors l'horizon reste bien la création d'un régime universel de retraite. 1 euro cotisé donne lieu au même droit pour tous, mais tout l'enjeu, c'est de savoir comment on y arrive. Et là, effectivement, Édouard Philippe a fait preuve de beaucoup de prudence et il a tenu à poser des garanties à la veille de nombreux mouvements sociaux contre cette réforme, notamment à la RATP demain. Alors, d'abord, il a dit que la pénibilité serait prise en compte dans cette réforme. Ceux qui ont commencé avant 20 ans doivent pouvoir partir plus tôt. C'est une question de justice, dit-il. Et puis le Premier ministre a tendu la main aux indépendants, leur taux de cotisation sociale n'augmenteront peut-être pas autant que ce qui est prévu, a-t-il laissé entendre. Ouverture aussi en direction des enseignants, des chercheurs, des aides-soignants, avec pour eux des mesures de compensation passant par une révision des carrières et du système de rémunération. Et pour aligner les 42 régimes existants, eh bien le gouvernement est prêt à se donner tout le temps nécessaire, c'est ce qu'a dit Édouard Philippe. Tant que chaque régime n'aura pas défini comment il converge vers le nouveau système, eh bien, la bascule ne se fera pas. Et ce principe, il sera inscrit dans le futur projet de loi qui sera voté avant l'été. Un principe, reconnaissons-le, qui reste encore un peu flou. La réforme, elle, en tout cas, ne sera pleinement effective qu'en 2040. Le gouvernement se donne 15 ans pour réaliser la transition, puisque le nouveau système doit commencer à entrer en vigueur en 2025.
Anne-Laure Jumet, malgré le discours du Premier ministre, il faut s'attendre à une grève massive demain à la RATP. Le trafic sera entièrement interrompu sur 10 lignes du métro parisien et fortement perturbé sur les autres lignes. Seules les lignes 1 et 14 qui sont automatisées devraient fonctionner normalement, mais elles risquent d'être saturées. Perturbation aussi sur les RER A et B, car tous les syndicats ont pris part au mouvement. Écoutez Olivier Davoise, secrétaire général du syndicat CGT RATP Bus.
Le message d'Édouard Philippe, il est bien gentil ce monsieur, mais c'est comme d'habitude. C'est pour tenter de calmer les colères, la contestation, et c'est pour essayer de gagner du temps. Et puis, cette volonté de mettre en place une concertation citoyenne sur les 12 prochains mois, à l'image du grand débat national suite au mouvement des Gilets jaunes. Sauf que tout ça, c'est de l'enfumage total, c'est pour gagner du temps, c'est pour faire croire qu'ils sont à l'écoute de la colère sociale, mais en fait, c'est pour endormir tout le monde. Il y a une véritable colère. Et il faut que la colère se répande dans l'ensemble du pays et que ça soit partagé par un maximum de salariés. C'est ce qu'on va faire comprendre aux salariés en grève demain dans les assemblées générales, dans les différents sites. C'est ce qu'on va faire passer comme message. Cette journée, d'ailleurs, elle est annoncée comme telle par l'ensemble des syndicats RATP. Elle est présentée comme étant un coup de semonce, un avertissement.
Et les avocats annoncent une mobilisation extrêmement forte lundi avec d'autres professions, pilotes de ligne, hôtesses, kinés, infirmières ou médecins. L'association des médecins urgentistes de France rejoint la grève aux urgences. C'est la première organisation de médecins à rallier ce mouvement mené depuis près de 6 mois par des personnels paramédicaux. Les mesures annoncées par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et chiffrées à 754 millions d'euros jusqu'en 2022, ne répondent absolument pas aux attentes des urgentistes, explique Patrick Peloux, le président de la MUF, qui appelle tous les médecins hospitaliers à se joindre eux aussi au mouvement.
Le plan qui a été annoncé est totalement inique, irréaliste et pas du tout dans les attentes des personnels. C'est pour ça qu'on rejoint le collectif Interurgence, parce qu'on estime, ça fait des mois qu'ils sont dans une lutte sociale, que l'on soutenait, ils n'ont pas été entendus. On ne veut pas créer un SAMU bis, on veut que le SAMU actuel existe. On ne veut pas fermer les SMUR, c'est-à-dire les ambulances de réanimation, on veut les conserver. On veut que les prérogatives et le service public exercé par les services d'urgence intra-hospitaliers aient les moyens de travailler. Symboliquement, on leur rend leurs 754 millions d'euros. On n'en veut pas, parce qu'on ne veut pas de cet argent qui va être repris aux autres services. On fait un appel aux autres syndicats. J'espère que les collègues vont comprendre qu'on est tous concernés par ce qui se passe. Il n'y a pas les urgences d'un côté, l'hôpital de l'autre. On fait un tout. Et il n'y a pas d'hôpital sans urgence.
Le médecin urgentiste Patrick Peloux a répondu à Fiona Mogadam. 10 jours après la rentrée scolaire, des inquiétudes continuent de se faire entendre dans la communauté éducative. Alors que Jean-Michel Blanquer explique que c'est l'une des meilleures rentrées qu'il ait connues, les remontées du terrain sont nettement moins enjouées. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Aurélie Kiefer.
Le SNPDEN, premier syndicat des principaux et proviseurs, parle d'une rentrée techniquement réussie, mais au prix de beaucoup de travail pendant l'été. Et la réforme du bac pose des questions d'organisation, Hakim.
Oui, globalement, le SNPDEN estime que la rentrée était sereine, loin des très fortes tensions pendant les grèves du bac, on s'en souvient, en juin et en juillet. En revanche, sur la réforme du bac, justement, des problèmes subsistent, notamment au niveau de l'organisation des plannings, avec la mise en place de 3 spécialités dès la première. Florence Delannoy, secrétaire nationale du SNPDEN, est proviseure à Genet, en zone rurale, dans l'Académie de Lille.
Je dirige moi un lycée plutôt rural, soumis au transport scolaire, et qui ne pouvait pas ajouter une demi-journée dans l'emploi du temps. Donc ça a été assez compliqué. Après, pour nous, les trous, c'est habituel. On les met en place avec du travail autonome, parce que de toute façon, ils sont soumis au transport scolaire. Donc donner une demi-journée de liberté aux élèves, ça n'a pas de sens, puisqu'ils ne peuvent pas prendre de bus pour rentrer chez eux.
Autre inquiétude, la mise en place d'un contrôle continu qui comptera pour 10% de la note finale. Les premières épreuves sont prévues dès janvier, mais cela risque de poser des problèmes d'organisation, notamment pour les élèves de seconde qui risquent de perdre des jours, faute de salles disponibles pour la mise en place des examens en janvier. Philippe Vincent, secrétaire général du SNPDEN.
Plus on aura des organisations massées et collectives pour un niveau, plus il y a le risque pour assurer ces organisations de devoir libérer d'autres élèves, ce que nous ne souhaitons absolument pas. Donc il va falloir qu'on trouve d'expérience le bon modèle pour éviter de perturber les autres niveaux que le niveau première cette année.
Enfin, selon le syndicat, 45% des proviseurs interrogés se sont retrouvés confrontés à un problème d'effectif chez les enseignants, ce qui est plus que d'habitude, avec des postes non pourvus et un recours accru aux contractuels, ce qui s'explique notamment par une crise des vocations, mais aussi par les salaires plus faibles que les autres pays de l'OCDE, comme le montrait l'enquête publiée mardi.
Hakim Kasmi, la sœur du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman a été condamnée à Paris à 10 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende. Assa bin Salman, 42 ans, était jugée pour avoir demandé à son garde du corps de menacer, frapper et humilier un plombier. La princesse reprochait à cet artisan intervenu dans une résidence de la famille royale des photos volées. Visée par un mandat d'arrêt depuis décembre 2017, elle n'a pas assisté à son procès et n'était pas présente pour le délibérer. Son avocat indique qu'elle va faire appel. Après les petites communes rurales, les grandes villes se joignent au mouvement anti-pesticides. Paris, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille et Nantes annoncent dans un communiqué commun leur décision d'interdire les pesticides sur leur territoire. En plein débat sur la distance à respecter entre les zones d'épandage de pesticides et les habitations, la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, dénonce un coup de com'. Ces grandes villes, elles, disent agir en application du principe de précaution, Rosalie Lafarge.
Oui, elles sont déjà toutes engagées sur le sujet. C'est 5 villes dirigées par la gauche ou les écologistes ont par exemple banni l'utilisation des pesticides dans leurs parcs et jardins. La loi s'en est chargée pour les particuliers, mais selon la maire socialiste de Nantes, Johanna Roland, il reste des trous dans la raquette.
Certes, la loi a interdit l'utilisation de ces produits pour les particuliers, mais par contre, une entreprise privée qui intervient dans un jardin, elle peut toujours utiliser ces produits. C'est le premier vide juridique. Le deuxième vide juridique, c'est des espaces qui n'appartiennent ni à l'État, ni aux collectivités, qui sont d'usage public, par exemple de terrains liés notamment à la SNCF. Ce sont aussi ces sujets concrets que nous voulons faire progresser.
Les signataires en sont pleinement conscients. Leur arrêté commun risque de subir le même sort que ceux des petites communes. Pénélope Comites est adjointe à la maire socialiste de Paris en charge des espaces verts.
Bien sûr qu'il est très très possible qu'il soit retoqué. Moi j'attends avec plaisir d'aller m'expliquer au tribunal. c'est un acte politique, c'est un acte supplémentaire et c'est une demande à l'État d'appliquer le principe de précaution.
Un acte politique, mais en aucun cas un coup de com', contrairement à ce que veut croire la ministre Elisabeth Borne. C'est en tout cas ce qu'assure le maire PS de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi.
C'est pas un coup de com', c'est un débat. Et si le gouvernement pense qu'il n'y a qu'une réponse cynique à nos arrêtés, je pense que ce n'est pas prendre la mesure de ce que nous essayons de porter et de l'intérêt que les citoyens ont de ce débat.
Des citoyens fortement mobilisés, le gouvernement a lancé sur Internet en début de semaine une consultation sur la distance à respecter entre cultures traitées aux pesticides et habitations. Plus de 11 000 commentaires ont déjà été déposés.
Rosalie Lafarge. Et les premiers bus à hydrogène, solution innovante, sont entrés en exploitation commerciale en France cette semaine, entre Versailles et Jouy-en-Josas, en Ile-de-France. Des lancements similaires sont ensuite prévus dans le Pas-de-Calais et à Pau. C'est un accord historique selon Bercy. Google, qui était visé par une enquête pour fraude fiscale, accepte de verser près d'1 milliard d'euros pour solder l'ensemble de ses contentieux avec le fisc français. Dans le cadre de cet accord, le géant américain de l'Internet a accepté d'une part de payer 500 millions d'euros d'amende pour mettre un terme à une enquête du parquet national financier et d'autre part de verser 465 millions d'euros de rattrapage fiscal pour clore les procédures de redressement engagées à son encontre. Elle a dégainé en une fois l'arsenal anticrise espéré tout l'été par les marchés financiers. La Banque Centrale Européenne annonce une série de mesures pour soutenir l'activité économique qui ralentit dans la zone euro. Pour sa dernière conférence de presse, Mario Draghi, président depuis 8 ans, a évacué donc les grandes décisions avant de passer la main à la française Christine Lagarde. Mais c'est un cocktail anticrise aux effets très incertains, Marie Vienno.
Jusqu'à la crise financière, la Banque Centrale Européenne augmentait ou baissait ses taux directeurs pour avoir un effet sur l'inflation et l'économie. Mais depuis 3 ans, ce taux est à zéro. La BCE, comme les autres banques centrales d'ailleurs, a donc mis en place des mesures non conventionnelles. L'une d'elles consiste à taxer les dépôts que les banques placent chez elles pour les mettre en sécurité. Ce taux de dépôt était de moins 0,4%, il passe à moins 0,5%, l'idée étant d'encourager les banques à prêter aux ménages et aux entreprises. Autre annonce du jour, ce qu'on a appelé le bazooka monétaire, la politique d'achat d'actifs, va reprendre. Entre 2015 et 2018, la BCE a acheté pour 2600 milliards d'euros de produits financiers sur les marchés. À partir de novembre, elle achètera de nouveau au rythme de 20 milliards d'euros par mois. Il n'y a en plus aucun terme annoncé pour ce programme, ce qui veut dire que les taux auxquels les États de la zone euro empruntent resteront bas, tout comme les taux des prêts immobiliers. En revanche, les épargnants et les fonds de pension dont dépendent de nombreux retraités, notamment allemands, sont pénalisés. Mais au final, juge Mario Draghi, la BCE agit comme elle le doit.
Il faut expliquer aux gens que les taux d'intérêt négatifs sont une nécessité. Selon moi, la crédibilité de la BCE dépend de sa capacité à remplir son mandat, qui est la stabilité des prix. Je l'ai déjà dit, 11 millions d'emplois ont été créés ces dernières années et les citoyens allemands ont eux aussi profité de la politique de la BCE.
La politique d'argent facile est donc toujours de mise et même amplifiée. Cela aura-t-il un effet sur l'économie et l'inflation? C'est incertain. De plus en plus d'économistes s'interrogent sur l'efficacité de la politique monétaire. Car un peu comme une drogue, ces programmes non conventionnels ont de moins en moins d'effet.
Donald Trump semble plus convaincu que vous par les mesures annoncées, Marie. Et la Fed reste assise sans rien faire, bougonne le président américain. Il avait déjà pris pour cible la Banque centrale américaine hier, traitant ses responsables de crétins. Le président américain estime que la Réserve fédérale devrait ramener les taux d'intérêt à zéro ou en dessous pour que les États-Unis puissent commencer à refinancer leurs dettes. Donald Trump attendu ce soir à Baltimore, sur la côte est du pays. Au cœur de l'été, le président américain avait vivement critiqué la ville. Il avait été jusqu'à la qualifier de cloaque dégoûtant. Baltimore, 600 000 habitants, est confronté dans plusieurs de ses quartiers à une grande pauvreté, au trafic de drogue et à la criminalité. La ville enregistre un taux record d'homicides par balle. Mais des habitants ont prévu de manifester ce soir pour dénoncer la venue d'un président qui les a dénigrés. La correspondance de Grégory Phillips.
Fin juillet, au cœur de l'été, Donald Trump s'en était pris très violemment dans plusieurs tweets aux représentants démocrates de la ville. Elijah Cummings et surtout le président américain avaient décrit Baltimore comme un cloaque dégoûtant, infesté de rats et de vermine où aucun humain ne voudrait vivre. La population, à grande majorité afro-américaine, avait été choquée à l'image de Phyllis Felton, qui est la pasteur de la plus vieille église noire de la ville.
Être ainsi décrit comme un endroit infesté de vermine, comme une ville où personne n'a envie d'habiter, on veut faire taire ce genre de propos. On veut que tout le monde comprenne que nous ne sommes pas ça. Oui, notre ville a des difficultés. Oui, elle doit se battre contre la pauvreté, contre le racisme. Mais il y a un vrai besoin d'unité. Et lui prêche la division et la haine. Ça nous divise et ça nous plombe.
Ce soir, plusieurs organisations appellent à manifester à proximité de l'hôtel où Donald Trump doit rencontrer des donateurs et des supporters républicains. Mais le président, qui viendra de Washington à bord de son hélicoptère Marine One, ne devrait quasiment rien voir de ces manifestations, ni bien sûr des quartiers déshérités de West Baltimore.
Grégory Phillips, correspondant de France Culture aux États-Unis. Plus d'une centaine de PDG de grandes entreprises américaines ont adressé une lettre au Sénat pour lui demander de durcir la législation sur les armes à feu. Dans leur lettre, les chefs d'entreprise dénoncent l'inaction du Sénat américain après les récentes fusillades de masse au Texas, dans l'Ohio, dans le Nevada ou en Caroline du Sud. Nous vous écrivons parce que nous avons la responsabilité et l'obligation de défendre la sécurité de nos employés, de nos clients et de tous les Américains, ajoutent les dirigeants de Gap, Lévi-Strauss, Uber ou encore Twitter. Le président républicain du Sénat, Mitch McConnell, a jusqu'ici systématiquement refusé de mettre à l'ordre du jour diverses propositions de loi votées par la Chambre des représentants, contrôlées par les démocrates, pour renforcer le contrôle des armes à feu. En Russie, 4 jours après des élections locales marquées par un net recul du parti au pouvoir, notamment à Moscou, la police a mené des perquisitions massives contre des collaborateurs de l'opposant Alexeï Navalny. Le militant anticorruption affirme que c'est la plus grande opération policière dans l'histoire de la Russie moderne. Il y a eu des perquisitions un peu partout en Russie. Difficile, Claude Bruyot, de ne pas y voir une réponse au grand mouvement de contestation qui a secoué Moscou cet été.
Oui, alors officiellement, Aurélie, il n'y a aucun lien, bien sûr, puisque les policiers russes ont agi dans le cadre d'une décision d'un tribunal moscovite en date du 4 septembre, c'est-à-dire avant le revers électoral concédé dimanche par le parti présidentiel Russie Unie dans le scrutin local le plus médiatisé, celui de Moscou, mais un revers sans doute enregistré, pour une part, et on y vient, à cause de la stratégie d'Alexeï Navalny. Le leader anticorruption avait appelé à faire barrage par tous les moyens aux candidats du parti au pouvoir, quitte à voter d'ailleurs pour le parti communiste. La manœuvre a entraîné une perte de près 30% de ses sièges pour Russie Unie à Moscou, et la pilule a certainement été très difficile à avaler du côté du Kremlin. Alors officiellement, le collectif anticorruption d'Alexeï Navalny fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'une somme d'1 milliard de roubles, environ 1 400 000 euros, et cette démarche est destinée à jeter évidemment le discrédit sur le mouvement d'opposition déjà exclu du système parlementaire. Après le leader et ses lieutenants les plus proches, tous soit objet de détention administrative, soit condamnés à de fortes amendes. Ce sont donc maintenant ses sympathisants les plus éloignés géographiquement qui sont concernés par ces perquisitions, un peu comme si le pouvoir judiciaire russe voulait bloquer le développement de l'organisation d'Alexeï Navalny dans les régions, craignant peut-être que ne se répète à l'avenir, dans les zones les plus éloignées, le recul électoral enregistré dans la capitale dimanche. Aujourd'hui, sur son blog, Alexeï Navalny parle d'un pouvoir pris d'hystérie. Fin de citation.
Merci Claude Bruyot, en direct de Moscou. On finit avec ce procès très inhabituel au Japon. Un homme attaque son entreprise devant un tribunal de Tokyo. Il dit avoir été sanctionné parce qu'il avait osé prendre des congés paternité après la naissance de ses 2 enfants. Dans un pays où la loyauté à l'entreprise est une valeur absolue, son cas fait beaucoup de débats, Yann Rousseau.
Ce papa de 38 ans refuse de donner son nom aux médias. Il a peur de ne plus jamais trouver de travail. Mais il veut absolument que son employeur, l'équipementier sportif ASIC, soit condamné pour harcèlement moral. Il explique que ses problèmes ont commencé en 2015, juste après la naissance de son premier petit garçon. À l'époque, il travaille à un poste très intéressant au service marketing, où il passe du temps avec les athlètes que sponsorise ASICS. Mais cette année-là, il décide de prendre un congé paternité de 12 mois, comme c'est prévu par le règlement. Le problème, c'est qu'à son retour, il est immédiatement muté dans un entrepôt pour faire de la logistique. Après s'être blessé à l'épaule, il a été ramené au siège, mais il s'est retrouvé soudain sans mission ni véritable chef. L'an dernier, il a repris un congé paternité pour la naissance de son second garçon, et quand il est revenu, il a été placé dans un bureau pour faire des traductions improbables. Il est convaincu qu'il a été puni, sanctionné par sa hiérarchie pour avoir osé prendre ses congés paternité, ce que ne font presque jamais les cadres dans le pays. Le Japon, qui souffre d'un effondrement de sa démographie, a mis en place des lois plutôt généreuses pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Mais dans les faits, seules les mamans osent s'arrêter. Elles sont 80% à en profiter. Par contre, seuls 6% des papas prennent un petit congé à la naissance de leur enfant. Ils ont trop peur d'être mal vus par leurs collègues qui accumulent généralement les heures sup et sacrifient une grosse partie de leurs vacances. Le jeune salarié demande à retrouver sa place au service marketing. marketing et réclame près de 37 000 euros de dommages et intérêts. Son groupe assure que c'est un grand malentendu et il promet des clarifications au cours du procès qui va s'étaler sur plusieurs jours.
Yann Rousseau à Tokyo. La météo, demain vendredi, des nuages au nord de la Loire, un grand soleil estival sur les deux tiers sud de la France. Les températures minimales varieront entre 11 sur le nord-est et 22 degrés sur l'extrême sud-est. Les maximales atteindront 19 à 27 au nord de la Loire, 26 à 33 plus au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.